Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast chaotique
préféré.
Avec Hélène.
Et Mélanie. Et Pierrot.
Et Pierrot qui dort.
Ok, on essaye d'endormir, ouais.
Oui. Vous savez pas ce qu'on vient de faire?
On leur dit-tu?
Oui, on leur dit, c'est bien trop drôle.
C'est-tu drôle? Moi, je trouve pas ça si drôle.
Moi, je pense qu'ils vont trouver ça drôle.
Ok.
Ok. Ça fait 4 ans qu'on fait ça.
On avait commencé
début octobre 2020.
Ouais.
Et sachez qu'après 4 ans, on est toujours loin d'être professionnel parce qu'on vient d'enregistrer un épisode aux 3/4 pour se rendre compte que les micros n'enregistraient pas.
J'étais rendue à la page 7 de mon épisode.
Ouais.
Genre 7 pages Word Times New Roman 12.
Ouais.
7 pages.
Voilà.
Puis Hélène, elle se retourne vers l'ordi, puis elle voit que les deux lignes du micro, ils bougent pas, puis elle fait « Mel, mon cœur a arrêté de battre. » Donc, on va faire comme si...
Je vais faire comme toutes mes réactions, comme si c'était la première fois. Vous me direz si je suis une bonne actrice.
Je sais pas ça, si on allait leur dire ou pas.
Moi, je trouve ça trop drôle.
Ça fait 4 ans qu'on fait ça, Hélène. On n'est même pas capable de peser sur play, comme du monde.
J'ai pesé sur play.
Ben oui, mais là, tu vois, on voit l'ordinateur, les lignes des micros, ils bougent. Oui. Là, il y a du son qui enregistre. Les deux petites lignes, c'était très flat. Là.
En fait, on est capable de peser sur play, mais on n'est pas capable de genre faire un test correctement.
C'est la faute d'Anthony, il avait juste à être là.
Oui, c'est ça. C'est ça, Anthony, il n'est pas là, ça paraît.
C'est quoi le contraire d'un shout-out? Pas un shout-out à Anthony.
Ouais.
T'avais juste à être là. Mais, tu sais, là, au moins, Pierrot, il dort. L'autre enregistrement, il gère un peu moins.
Puis, il n'y a pas de bruit de sableuse en ce moment.
Parce qu'Hélène, il y a encore des travaux dans sa cour.
Ouais.
Voilà.
Donc, ça va quand même être plus positif de ce côté-là.
De mon côté, je suis très essoufflée. Ça se peut que j'accouche dans 10 secondes.
Ouais.
Écoute, je suis arrivée chez Hélène, tantôt j'avais une contraction.
Ouais.
Fait que j'ai eu un beau stripping, pour ceux qui savent. If you know, you know. Il y a un beau stripping avant l'enregistrement. C'est super. Yes.
Fait que ça se peut qu'on enregistre ça live, là, un accouchement.
Oui, ça fait un critique de bon épisode, hein?
Ouais.
On a un potin.
Oui.
Je vais faire comme si je le connaissais pas.
Vas-y. Moi aussi.
Mais je sais que ça a rapport avec, je sais pas si vous avez entendu, mais sur un côté plus sérieux, là.
Oui.
Il y a eu au cégep de Valleyfield, il y a six jours, une tentative de meurtre sur un employé par James Coulomb qui a été arrêté flambant nu.
Mm-hmm.
J'ai pas plus d'informations, mais voilà. Je sais que la personne, l'employé, est encore en vie. Donc, c'est une tentative de meurtre et non meurtre. Thank God.
Oui, une chance.
Et tu disais qu'il y avait quelqu'un qui nous a écrit par rapport à ça?
Oui. Dans le fond, le dude nu qui poignarde, il aurait presque fait une autre victime, genre 2 semaines avant. Puis elle nous a écrit.
Hein? Raconte-nous.
T'es surprise, hein?
J'essayais, là.
OK, excusez. Donc, c'est sérieux. Donc, c'est un message de Erika. Alors, elle dit « Salut les filles, j'espère que ça va bien. J'ai un crime de potin à vous confier. Je sais pas si vous avez entendu parler du gars qui a poignardé une femme au cégep de Valleyfield. Ça a failli m'arriver 2 semaines avant par le même gars. Je venais à mon dep pour me faire à manger et mon coworker m'a dit qu'il y avait un gars louche qui arrêtait pas de venir et partir du magasin et il restait comme 30-40 minutes dans les toilettes à chaque fois. Après 10 minutes, je parle à mon collègue et je vois un homme qui rentre dans le magasin, mais il a l'air défoncé. Il essaie de prendre une bouteille de vin et d'aller dans les toilettes avec. Puis moi, je le laisse pas faire, donc je crie « Remets la bouteille là! » Il s'obstine et finit par la mettre à sa place et il rentre dans les toilettes et s'embarre. 30 minutes après, j'ai une envie de pisser tellement urgente. J'avais tellement envie de pisser, j'avais mal à vessie. Je décide donc d'aller cogner à la porte une fois, deux fois. Il ne répond pas. J'ai laissé passer 5 minutes et je décide d'aller retourner cogner. Et là, il ouvre la porte et il me dit « Si tu essaies de rentrer, je te stab. » Moi, fâché avec mon envie de pisser et j'ai mauvais caractère d'envie, mon TBL aide pas, je commence à l'envoyer chier solide. Okay, la fille est quand même ballsy, là, genre courageuse. C'est un peu...
Que j'avais ouais.
Il me menace et moi, je vois qu'il est pas bien. J'étais sûre qu'il était intoxiqué, donc je dis s'il essaye d'être violent, je vais être capable de lui faire une contention physique pour que ma belle-sœur et mon frère aient le temps d'appeler la police. Après 20 minutes de débat verbal, pour pas dire que je l'envoie chier, ma belle-sœur décide d'appeler la police car il m'a quand même menacée. Il s'en va s'enfermer dans les toilettes et je l'entends frapper et briser des trucs. À l'arrivée de la police, ils ont pris 20 minutes à le maîtriser. Pauvre de Cayenne et tout. La policière vient me voir pour me prendre ma déposition et je vois un de ses coéquipiers qui s'en vient. La policière me dit mot pour mot « Est-ce que tu sais que tu as failli mourir à soir? » Et au même moment, son collègue dépose sur une valise pour prendre une photo un gros couteau de cuisine bleue la grandeur d'un avant-bras.
Il niaisait pas quand il disait qu'il allait la poignarder. Là.
Non.
Il était très sérieux. Mm-hmm.
Quand ils l'ont sorti, le gars était à moitié à poil et je capotais. J'ai porté plainte contre le gars et il s'appelait James Coulombe.
C'est quoi son truc de... Il faut qu'il soit tout nu pour poignarder?
Ouais, bien clairement, ça va pas bien dans sa tête, ce gars-là. Non. Fait que, voilà. Alors, victime ça a failli être elle. Du cégep, sache qu'il a une autre presque victime.
Mm.
Ce gars-là, il est dangereux. Il va pas bien.
Mais là, il est en...
Ouais, là, il est
ils l'ont pogné au moins.
Ils l'ont pogné au moins, ouais.
Si vous googlez, les photos sont très explicites.
Oui, c'est ça, il est vraiment nu.
Il est très tout nu.
Flambant nu, oui.
Très, 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 très tout nu.
Oui.
Grain à l'air. Bon. Sur ce...
Mel, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui?
C'est poche parce que les punchs dans mon histoire sont quand même bons.
Oui. Bien, au moins, je ne connais pas la fin.
Oui.
On s'est arrêté avant.
Il restait genre une page et demie. OK, on va arrêter. On fait comme si rien n'était.
Oui, OK.
Les acteurs, ils font ça, hein. Ils font des reprises et des reprises.
Ben puis... oui, ils jouent la même pièce à chaque soir.
Oui, voilà. Mm. Nous sommes à Surrey, une ville située à environ 30 minutes de Vancouver, en Colombie-Britannique, où des Anglais du nom de Chris et Susan Simmons ont immigré en 1968. Le couple a deux filles, Sean et Katie. Les deux filles ont 18 mois de différence, puis sont meilleures amies. Katie travaille à temps plein, puis Sean travaille à temps partiel comme serveuse tout en suivant des cours à l'université. Elles ont aussi la même voiture qu'elles adorent. Il y a un Jeep noir pour Katie et un Jeep rouge pour Sian. Information importante, plus tard. Les sœurs habitent ensemble dans un appartement dans le sous-sol de leur tante, Jillian. Le matin du 27 janvier 1993, vers 11h15, Jillian est en train de faire du ménage chez elle, puis on sonne à sa porte. Elle ouvre, puis devant elle se tient un grand homme blanc vêtu d'une chemise à carreaux, d'une veste brune et d'un jeans. Là, je suis vraiment essoufflée tout le temps. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Je suis énorme. L'homme demande à Jillian si le Jeep rouge stationné dans la ruelle derrière la maison lui appartient. Jillian a dit, elle demande pourquoi. Puis là, il explique qu'il a accidentellement rayé la voiture puis qu'il veut réparer les dommages, mais que pour ce faire, il a besoin de la signature du propriétaire de la voiture pour les papiers d'assurance. Les papiers d'assurance, il les tient dans ses mains.
Okay.
Jillian lui répond que le Jeep appartient à sa nièce de 19 ans qui habite au sous-sol. Elle lui montre la porte du logement sur le côté du bâtiment, donc l'homme la remercie, puis il se dirige vers l'autre porte. Il cogne. Sean ouvre en robe de chambre, est en train de se préparer pour l'école, puis Katie est déjà partie au travail. L'homme explique à Sean qu'il a rayé sa voiture et il demande de venir voir. Donc, elle suit l'homme vers son Jeep. Le véhicule est bel et bien rayé. Sean est un peu fâché, avec raison. L'homme la rassure, puis il dit que s'ils remplissent les papiers, ses assurances vont payer pour la réparation. Donc, il retourne dans l'appartement de Sean, puis s'assoit à la table pour remplir les papiers. Après quelques minutes, l'homme demande à Sean s'il peut utiliser la salle de bain. Un peu plus tard, il sort, puis il se dirige vers Sean, qui est assise dos à lui. Et là, elle aperçoit dans son angle mort l'homme qui marche vraiment tranquillement vers elle. Et là, elle se rend compte que dans sa main droite, l'homme a un fusil muni d'un silencieux. Elle capote. Elle se lève, attend de prendre la fuite. Rapidement, l'homme appuie sur la gâchette. Il atteint Sean au côté gauche de la mâchoire. La balle traverse son visage jusqu'à son nez. Elle crie, elle se débat du mieux qu'elle peut. L'homme, il tire encore. Là, il l'atteint à l'épaule droite. Elle réussit à donner un gros coup de pied à son agresseur dans l'aine, mais ça fait juste le frustrer encore plus. Donc, l'homme, il tourne son arme, puis il utilise la crosse du fusil pour la battre violemment, comme la poignée, dans le fond. Et là, il la bat sans arrêt jusqu'à ce que Sean cesse de respirer. Donc, Sean Simmons meurt à 20 ans moins un jour parce que le lendemain, c'était son anniversaire.
Non.
Ouais, le 28 janvier.
En plus, que quand t'as raconté, je pensais qu'elle allait survivre. Parce qu'il y a comme full de détails dans ce que tu dis.
Ouais, non.
C'est comme, on dirait vraiment comme la version de la victime.
Non, non, c'est vraiment la version à lui.
Hmm.
Ce qui est triste dans l'histoire aussi, c'est que elle était en train d'organiser le party de fête de son chum qui allait avoir lieu ce soir-là. C'est comme une grosse semaine de fête. L'autopsie va révéler que Sean n'est pas mort dû aux balles reçues, mais bien à cause des coups donnés avec la crosse du fusil. Les coups violents ont causé de nombreuses fractures du crâne. Il y a un vaisseau sanguin essentiel qui a été lacéré pendant l'agression. C'est ça qui a provoqué une hémorragie majeure qui a causé sa mort. Donc, voyant que Sean est décédé, l'homme, il se lève, il enveloppe son arme dans sa veste, puis il s'en va. Quelques heures plus tard, Jillian, la tante, elle appelle sa nièce parce qu'elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement. Et là, elle tombe sur le répondeur, fait qu'elle décide de descendre voir. Évidemment, elle ne s'attend pas du tout à tomber sur le corps de sa nièce de 19 ans.
Non.
Donc, elle entre dans l'appartement, elle voit Sean étendu par terre. Puis apparemment qu'elle est méconnaissable tellement qu'elle s'est fait battre violemment.
Mmh.
Elle appelle directement le 911.
C'est... Genre, je comprends pas le plan du gars.
Il y a rien à comprendre.
Parce que... La tante l'a vu, il a parlé, genre, elle peut vraiment le reconnaître. Après ça, tu sais, genre, tout son stratagème...
Ah, c'est toute la merde.
Tu sais... Pourquoi il n'est pas juste rentré la nuit, genre, tu sais, s'il voulait la tuer, comme...
Parce que c'est vraiment un cocombe. Moi, je l'appelle le cocombe.
Oui, clairement catégorie c'est cocombe.
C'est un gros cocombe.
Ouais.
Je vais te... Il a fait vraiment d'erreurs. Des erreurs. Les enquêteurs de la GRC relèvent des traces de sang puis de matière cérébrale partout sur les murs. La violence avec laquelle la jeune femme a été battue laisse croire aux enquêteurs que le meurtre est prémédité. Et sur le sol, il trouve deux douilles de calibre 22 qui coïncident avec les blessures par balle de la victime. Heureusement pour l'enquête, c'est ça, le tueur a été vraiment maladroit. Il a laissé vraiment beaucoup d'indices sur son chemin. D'abord, les papiers d'assurance sur la table, ils décrivent toutes les informations de la voiture, de sa voiture à lui.
Ça, c'est cave en...
Oui, c'est une voiture de marque Dodge Omni 1984. Il y a aussi la tante de Sean, comme tu disais, qui peut donner une description extrêmement claire et précise de l'homme à qui elle a parlé. Et les enquêteurs, ils examinent les rafleurs sur le Jeep rouge, puis c'est une ligne profonde de 15 cm qui est en dessous de la poignée de la porte du conducteur. Et selon leurs analyses, les rafleurs n'est pas le résultat d'un accident, mais bien d'un geste volontaire causé par un objet pointu. Les enquêteurs font du porte-à-porte dans la rue pour voir si quelqu'un aurait aperçu l'homme qu'ils recherchent. Et il y a plusieurs voisins qui déclarent l'avoir vu puis qui décrivent exactement de la même manière dont Jillian le décrit avec sa chemise à carreaux et tout. Et il y a un témoin vraiment important qui rapporte aussi avoir vu le tueur, qui est le facteur. Il a dit avoir vu l'homme marcher dans la ruelle puis se faufiler entre les maisons. Puis il portait des gants. Il dit qu'il a vu l'homme marcher entre la maison de Jillian puis la Dodge. Puis, cette Dodge-là, il ne l'avait jamais vue stationner dans le quartier auparavant. Fait qu'il trouvait que la voiture avait l'air tellement bizarre, je ne sais pas dans quel sens, mais il a pris en note la plaque d'immatriculation.
Hein?
Good job, facteur! Une piste vraiment cruciale dans l'avancement de l'enquête, on s'entend. Donc, les enquêteurs ont réussi à retrouver rapidement le propriétaire du Dodge, puis son adresse.
Ouais. Mais j'avoue que, tu sais, un facteur... Tu passes à tous les jours, tu vois tout le temps les mêmes gens, les mêmes voitures, les mêmes... Fait que j'avoue, dès qu'il y a quelque chose qui est comme out of place, là,
puis ça devait être genre, tu sais, 1980, c'est un vieux Dodge. Ben là, ils sont en 93. Mais quand même, tu sais, c'est une vieille voiture, elle devait être rouillée, elle devait être dégueu, genre, je sais pas. J'ai pas vu de photo de la voiture, c'est mon opinion personnelle. Donc, les policiers se présentent à l'adresse en question et l'homme qui habite là leur confirme que la voiture lui appartient, mais il explique aux policiers que c'est un ami qui a emprunté sa voiture ce matin-là. Donc, il l'a pas, la voiture. Et l'ami en question s'appelle David Schlender, un nom qui dit quelque chose aux policiers. Mm-hmm. En effet, David Schlender, 38 ans, c'est un grand consommateur de drogue et il est bien connu des policiers parce qu'il est lié au crime organisé local. Même que, 6 mois avant le meurtre de Sean, Schlender il aurait tiré sur un dealer de cocaïne et sa femme quand ils étaient dans leur voiture dans un stationnement souterrain. La balle aurait atteint la joue de l'homme, puis il aurait réussi à se rendre à l'hôpital puis à la faire retirer de sa langue. Ah, donc, okay. Il n'est pas décédé. Mais, encore là, vu que le tueur est un peu cocon, il a été aperçu par vraiment beaucoup de gens qui ont été capables de donner une description précise de qui avait vu, et il a laissé l'arme du crime sur les lieux. Donc, ça a été assez rapide avant qu'il soit arrêté puis accusé de tentative de meurtre. Il a été libéré sous caution en attendant son procès, puis c'est pendant cette période-là que le meurtre de Sean a eu lieu. Bref, David Schlender, j'ai écrit ça dans mon texte, définitivement pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Mm-hmm. Ou c'est quoi l'autre, le pogo le plus
déjeuné? Ouais, le pogo le plus déjeuné de la boîte.
Les policiers procèdent encore une fois rapidement à son arrestation pour le meurtre de Sean Simmons, grâce aux nombreuses traces qu'il a laissées derrière lui. Mm-hmm. Schlender est emmené au poste de police pour un interrogatoire. Il passe 2 jours au poste, puis il fait 2 déclarations dans lesquelles il nie complètement avoir un lien avec le meurtre de Sean. Pendant qu'il est au poste, les policiers fouillent son domicile, puis ils trouvent un sac avec des balles de calibre 22, comme celles qui ont été trouvées dans l'appartement.
Ben, qu'un.
Schlender apprend que les policiers ont trouvé le sac. Et là, il dit « je veux passer en accord ». Je vais vous donner plus d'informations sur le meurtre, mais en échange, je veux une protection pour ma femme puis mes 2 filles. Parce que, ouais, le cocombe, il est père de famille, puis c'est un mari. Entre-temps, la famille Simmons est comme soulagée de savoir que le meurtrier de leur fille y a été appréhendé aussi rapidement. Il organise des funérailles où il y a beaucoup de citoyens qui se présentent avec des roses blanches pour lui rendre hommage. Et pendant la cérémonie, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Il y a une femme d'un certain âge qui est camouflée dans un foulard. Puis elle s'approche de Katie, la sœur de Sean. Elle lui chuchote à l'oreille. Ils se sont trompés d'homme.
Hein?
Tant, tant, tant.
C'est genre une scène de film.
Genre. Merci pour ta réaction.
Comme c'était la première fois que j'entendais ce punch.
Donc, après avoir passé son accord avec la police, Schlender raconte la vraie histoire du meurtre de Sean Simmons. Schlender, c'est un grand consommateur de drogue, plus précisément de cocaïne, et il en consomme tellement qu'il doit 6 000 $ à son fournisseur. Son fournisseur s'appelle Brian West. West, c'est un trafiquant de 43 ans qui habite dans un appartement avec sa femme dans le même bâtiment que Schlender. Environ 2 mois avant le meurtre de Sean, West il demande à Schlender s'il peut y rendre un petit service en échange de quoi il allait effacer sa dette de 6 000 $. Quel est ce service, tu me demanderas? West, il conduit Schlender à une maison, puis il explique que les 2 sœurs qui vivent au sous-sol, ils planifient témoigner en cours contre un de ses bons amis à lui, qui est un instructeur de karaté, et qui doit les empêcher. West, il demande à Schlender de mettre le feu à la propriété pour faire peur aux 2 sœurs, pour les empêcher de témoigner. Et là, Schlender refuse, mais West, il menace de faire du mal à sa famille s'il ne fait pas ce qu'il demande, donc il finit par accepter. Quelques semaines plus tard, West revient avec un nouveau plan. Parce que là, Schlender, il n'a toujours pas mis le feu. Le procès arrive. Il donne un fusil de calibre 22 avec un silencieux à Schlender. Puis là, il dit qu'il doit viser une seule des sœurs, la blonde, celle qui est propriétaire du Jeep rouge, donc Sean. Le plan, c'est d'entrer chez elle, de la menacer avec le fusil pour l'empêcher de témoigner. Pas de la tuer.
OK. C'était pas prévu de la tuer.
Non.
C'était comme il a paniqué, puis il a tiré probablement.
Selon cette version-là, l'histoire, oui.
OK.
Donc, West offre un bonus de 1 200 $ à Schlender en plus de l'effacement de sa dette, plus 700 $ additionnels pour louer une voiture sous un faux nom le jour où il doit aller se rendre à la maison. Schlender accepte, mais au lieu de garder l'argent, il la dépense en cocaïne.
Tiens donc.
Donc, le matin du 27 janvier 1993, il n'y a pas de fonds pour louer une voiture. Donc, il se rend chez son ami Brian Ken, puis il emprunte son Dodge Omni 84.
Je pense que...
C'est un bon chum.
Ouais, c'est ça. Je pense que ce ne sera plus son ami pour longtemps.
Donc, on connaît le reste de l'histoire. Il prend la voiture, voilà. Après ces aveux-là, Schlender est accusé de meurtre deuxième degré. Deuxième degré.
Ouais.
J'ai mal dit.
Ouais, c'était pas prémédité de la tuer. Ouais.
C'est ça. Est-ce que Brian West est aussi arrêté? Non. Le problème, c'est que le plan consistait juste à menacer les sœurs Simmons et non à commettre un meurtre. Il n'y a donc pas assez de preuves pour l'arrêter pour complot de meurtre. Mais les policiers connaissent vraiment bien West, vu qu'il fait toutes ses affaires. Fait qu'ils se disent que ça va pas prendre trop de temps avant qu'il commette une erreur puis qu'il puisse l'arrêter pour quelconque raison. Ils disent on va réussir à le pogner, c'est sûr.
OK.
Donc, en effet, le vendeur de drogue de 43 ans a un assez lourd passé criminel. Il a été condamné à plusieurs reprises pour différentes accusations. En 90, donc 3 ans avant le meurtre de Sean, West est condamné pour une agression sur sa femme. Apparemment qu'il aurait plaidé la légitime défense parce que selon lui, sa femme l'aurait attaqué avec une fourchette à barbecue. Mais elle a dit que la fourchette à barbecue, c'était de la légitime défense parce que c'était lui qui l'avait attaqué en premier. Bref, grosse affaire. Il y a eu un procès qui a eu lieu et il y a un ami de longue date de West qui est venu témoigner en sa faveur. L'ami en question, c'est un homme du nom de Joseph Akis Charalambos, qui est un instructeur de karaté.
Oh!
Je te parle un petit peu de Charalambos. Un petit peu. Pendant vraiment longtemps, je vais t'en parler. Donc, Joseph Akis Charalambos naît à Chypre. C'est une île dans la mer Méditerranée située entre le Liban, la Syrie et la Turquie. J'ai fait mon Google Maps.
Good job.
Sa famille d'origine grecque immigre au Canada en 1960, alors qu'il a 8 ans. Son père est dur et abusif, sa mère tout le contraire. À l'école primaire, Joe excelle, puis au secondaire, il se concentre davantage sur ses conquêtes amoureuses que sur ses études. Il est connu comme un homme à femme, un peu agressif, mais super populaire, avec un penchant pour les blondes. À la fin des années 70, Joe commence des études en médecine, puis il se découvre une passion pour le karaté. En 3 ans, il obtient sa ceinture noire, puis il commence à enseigner dans un dojo dans le sous-sol d'une église où il fait la rencontre de Brian West.
Oh.
Pendant ses études de médecine, Joe fait souvent appel à des travailleuses du sexe pour s'assouvir ses très, 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 très grandes envies sexuelles. Ça y attire toutefois beaucoup d'ennuis. Il y a une fois, il y a 2 hommes armés qui se sont présentés chez lui pour le tabasser parce qu'il n'avait pas assez payé une des travailleuses du sexe qu'il avait engagée.
Oups!
À ce moment-là, quand Joe aurait vu les 2 gars, il aurait tiré un des 2 dans la main.
Hein?
Mais il n'est pas accusé parce que c'est un acte de légitime défense après une violation de domicile.
Ouais.
Et une autre fois, il est accusé d'agression après avoir frappé une femme qui avait repoussé ses avances. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. Là, c'est pas un doux.
Non, il a l'air de... Ouais.
En 81, il obtient son diplôme de médecine. Après quelques années, il ouvre son cabinet médical, qui est un grand succès dès le départ. Il fait donc quand même beaucoup d'argent.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples, too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Il s'achète une belle maison avec une piscine et il se découvre aussi une passion pour les courses de chevaux, puis il devient un gambler assez connu à l'hippodrome local.
Fait que il a tous les vices.
Et l'enfer.
Le gambling, la prostitution.
Ah ouais, casino, name it.
Le meurtre, peut-être.
Peut-être. On sait pas. Docteur Charlambous est de plus en plus connu, puis il se bâtit une grande clientèle assez loyale. Parmi ses patients, il compte la famille Joel, qui est constituée de Jacqueline, la mère, le beau-père, il y a Shelley, qui a 15 ans, et d'autres demi-frères et demi-sœurs. Docteur Charlambous est très aimé de la famille Joel. Il est super gentil, très attentif à leurs besoins. Il est particulièrement attentif aux besoins de Shelley. Le docteur développe une grande admiration envers l'adolescente. Il offre des cadeaux. Il l'appelle souvent à la maison pour y jaser. Puis, il l'invite souvent aux courses de chevaux à l'hippodrome.
Ça s'appelle du grooming.
Oui. Oui, c'est vrai. Je l'avais décrit dans un épisode. Ouais. Au grand désespoir de toute mère, Shelley tombe en amour avec son médecin. Yep. Ah. Évidemment, Jacqueline se met à la recherche d'un nouveau médecin pour sa famille. Oui. On s'entend. Ouais. Elle tente aussi d'interdire sa fille de voir son nouvel amoureux de 33 ans. Sans succès, Shelley, elle s'enfuit même de la maison pour aller vivre avec lui.
Non!
Jacqueline fait évidemment une plainte au collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique.
Oui.
Un peu après que Shelley est emménagée chez son amoureux, ça m'écarte de dire son amoureux,
ouais,
son médecin, genre son
vieux dégueu.
Son vieux... La police procède à l'arrestation du docteur. Et Shelley découvre que son médecin adoré accumule depuis de nombreuses années les infractions à caractère sexuel.
Ah.
Les autorités y ont à l'œil docteur Charlambous depuis vraiment longtemps. J'ai quelques exemples. En 1974, il a fait l'objet d'une allégation d'attouchement sexuel pour une élève de karaté âgée de 14 ans. En 78, il a été reconnu coupable de voies de fait. Et en 85, il y a la fille d'un ami de Charlambous qui a porté plainte pour tentative d'agression sexuelle, apparemment qui aurait amené la fille de son ami à l'hippodrome. C'est quand même son classique, qui est
date.
Puis il l'aurait ensuite ramené chez lui pour tenter de l'agresser. Et c'est pour cette dernière accusation-là que le docteur Charlambous s'est arrêté. Donc, quand il est arrêté, Shelley, elle va vivre avec sa tante. Et en janvier 86, pour une raison inconnue, les charges sont suspendues, puis Charlambous est libéré. Oh. Et là, il réussit à convaincre Shelley, qui vient tout juste d'avoir 16 ans, de revenir vivre chez lui.
Non.
Oh. Yup. Entre-temps, Dr. Charlambous apprend qu'il y a une enquête du Collège des médecins qui est en cours sur lui. Et dans une crise de colère, il aurait dit à Shelley qu'il allait tuer sa mère, vu qu'il savait que c'était elle qui avait fait la plainte. Mais Shelley, ça ne l'inquiète pas tant parce que ça y arrive souvent à son amoureux de dire des choses de même. C'est quand on est fâché, on dit souvent qu'on m'a tué ta mère.
Oui, c'est un comportement très sain et normal.
Quelques mois plus tard, Charlambous, 34 ans, demande Shelley, 16 ans, en mariage. Elle manipulait la pauvre. Là,
pauvre petite. Puis pauvre maman, là, qu'est-ce que tu fais? Là?
Elle doit capoter. Le Collège des médecins prévoit sous peu une audience disciplinaire. Dr. Charlambous engage Maître Richard Peck, qui intente une action en justice visant à faire cesser les audiences disciplinaires. Selon lui, ces audiences nient le droit à la liberté en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Et cette action-là retarde l'audience disciplinaire. Puis, en février 87, l'affaire se rend devant la Cour suprême. La défense de Charlambous repose sur le fait que la commission d'enquête du Collège des médecins détermine son aptitude à exercer la médecine en suivant ses propres règles et non en suivant la loi. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la commission du Collège, elle reçoit toutes les preuves, même si elles sont inadmissibles devant un tribunal. Exemple, des oui-dire. Ça, ce ne serait pas admissible en cours.
Ouais.
Mais Maître Peck, il plaide donc que si les preuves ne sont pas admissibles devant un tribunal, elles ne devraient pas être autorisées dans la décision de la commission du Collège des médecins. Ce que je comprends la logique, mais heureusement, le juge rejette ce plaidoyer-là.
Ouais. Parce que justement, ce n'est pas un tribunal, c'est une autre instance.
Exactement.
Qui a ses propres règles.
Tu vas être jugé par la loi. Au procès, Shelley témoigne contre sa mère. Manipuler la petite. Et elle la qualifie de contrôlante, puis elle insiste sur le fait que Charles Ambush était plus son médecin de famille quand leur relation a commencé. Heureusement, la couronne ne peut prouver le contraire.
Aha.
Au moment où Jacqueline a rompu les liens entre sa famille et leur médecin, Shelley elle a eu une grosse crise d'asthme, puis elle a dû se rendre à l'hôpital. Charles Ambush est venu visiter Shelley, puis il a pris soin d'elle, comme en tant qu'amoureux-ish.
Mm-hmm.
Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a facturé le gouvernement pour être remboursé pour sa visite, comme s'il avait donné des soins à Shelley parce qu'il était son médecin.
OK.
Donc ça prouve que la relation entre Shelley, qui avait 15 ans à l'époque, et Charles Ambush avait bel et bien lieu en même temps qu'il était sa patiente.
Niaiseux.
Ouais. Après l'audience, en attendant la décision de la cour, Charles Ambush, il capote parce qu'il se rend compte qu'il est un peu dans le caca.
Mm-hmm.
Donc, il convainc Shelley de s'enfuir pour se marier en cachette. Le problème, c'est que Shelley, elle a 17 ans. Fait qu'elle peut pas se marier sans l'accord de ses parents. Puis, ils savent qu'ils vont pas dire oui, évidemment. Ouais. Et là, je sais pas comment, mais le docteur a réussi à trouver un faux certificat de naissance. Puis, ils s'en vont à Las Vegas le 19 mars 87 pour se marier.
Mm.
Alors, retour au Canada. Le couple annonce pas une, mais deux bonnes nouvelles à la famille Joel.
Oh non.
Ils sont mariés et...
Ils vont avoir un enfant.
Ils vont avoir un bébé.
Ah non.
17 ans, je rappelle. Jacqueline, elle se rend compte qu'elle est en train de perdre sa fille, le pauvre titre. Elle capote, elle sait plus quoi faire. Donc, pour tenter de rebâtir la relation de confiance avec Shelley, Jacqueline, elle revient publiquement sur certains témoignages qu'elle a fait lors de l'audience. Quelques mois plus tard... Le docteur Charles Ambush est reconnu coupable par le Collège des médecins. Il est condamné à... T'es-tu prête?
Ça, c'est pas grand-chose. Hein?
Une amende de 30 000 $. Il doit suivre un cours d'éthique médicale, puis il n'a pas le droit d'exercer la médecine pendant 6 mois.
C'est tout?
That's it. Mais là, tu sais, tu dis, OK, tu t'en tires quand même bien, mon chum. Mais lui, il n'est pas content. Et donc, Maître Peck porte la décision en appel sur la base que le docteur ne pourra jamais payer l'amende s'il ne peut pas travailler pendant 6 mois. Ce qui est faux, là, c'est ça. J'ai lu à quelque part qu'il faisait un demi-million par année. Là. 30 000, t'es correct. Okay. Mais tu sais, en même temps, il y a des problèmes de juge.
Ouais.
Pierrot est en train de boire son lait, si jamais vous entendez des petits têtements. Voilà. Donc, attends, je suis rendue. Comme on peut se l'imaginer, Maître Peck porte la décision en appel sur la base que le docteur ne pourra jamais payer l'amende s'il ne peut pas travailler pendant 6 mois. Mm-hmm. Ce qui est quand même faux, parce que j'ai lu à quelque part qu'il faisait un demi-million par année, donc...
Ouais, c'est sûr qu'il peut payer ça.
Même si c'est un gambler ou...
Ouais, oui, il y a peut-être des dettes. Ouais.
Donc, le juge décide de réduire l'amende de 30 000 $ à 25 000 $ puis il maintient la suspension.
Bon.
Il a sauvé 5 000 qui est sûrement dépensé en frais d'avocat. Anyways, donc. La suspension de Charles Ambush commence en janvier 1989. Et là, il réhypothèque sa maison. Puis là, on se dit, ah, oh, pauvre petit, tu sais, il doit utiliser une deuxième hypothèque pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais... Non.
Non.
Non. Shelley, elle reste à la maison pour s'occuper de leur enfant pendant que son mari flambe leur cash au casino, à l'hippodrome en prostituée.
Mm-hmm.
Et comme on peut se l'imaginer, comme tous nos fucking épisodes, il commence à boire vraiment beaucoup d'alcool puis il devient violent. Après sa suspension de 6 mois, Dr. Charles Ambush ouvre à nouveau son cabinet. Et là, tu dis, ah, ben, il n'y aura personne qui va y aller.
Ouais.
Non.
Non.
Non. Il réussit à convaincre ses patients que les charges contre lui sont bidons puis que sa femme, qui est alors enceinte de leur deuxième enfant,
oh non,
est vraiment heureuse. Tout va bien. Charles Ambush se retrouve donc ses jeunes patientes adorées, dont deux sœurs de 16 et 19 ans, qui trouvent particulièrement de son goût, Katie et Sean Simmons. Le lien est là.
Oui.
En septembre 91, Sean et Katie ils décident de parler à leur père Chris de leurs expériences avec leur médecin. Docteur Charles Ambush aurait embrassé Katie sur la bouche quelques fois, et il aurait touché les seins de Sean sans raison. C'est pas un examen médical.
Non. Ah, c'est Dieu dégueu. Ah.
Donc, Chris porte plainte au Collège des médecins, encore une fois. Donc, à peine 2 ans après la fin de sa suspension, Dr. Charles Ambush fait encore l'objet d'une enquête, et l'audience disciplinaire est annoncée pour mars 93. Et le charlambousse, dans un de ses nombreux élans de colère, comme d'habitude, il prend le téléphone, puis il appelle chez les Simmons, et il menace la pauvre Katie au bout du fil. Il dit que si elle continue, ça allait mal aller. Et Katie, thank God, elle a enregistré l'appel. Ça, c'est vrai.
Good job.
Puis elle a envoyé l'enregistrement au collège des médecins. Donc là, charambousse vraiment stressé. Sa solution, boire plus d'alcool, puis mélanger tout ça avec des somnifères. Donc, résultat, il devient encore plus violent.
Encore plus fou.
C'est Shelley qui, littéralement, paie.
Oh my God, pauvre.
Et là, c'est le point où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas enregistré. Donc, tu connais pas la suite.
Non, là, je connais plus rien.
C'est le moment où Hélène a dit « Mel ». OK, de retour à l'histoire. Donc, à ce point-là, il sait qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir, le docteur. Et il doit empêcher les sœurs de témoigner. Donc, il fait appel à son bon ami camarade de karaté, Brian West, parce qu'il sait que West a des connexions dans le domaine du crime. Fait qu'il dit sûrement qu'il est capable de me trouver quelqu'un qui peut me débarrasser des sœurs. Et donc, il offre 20 000 $ à son ami pour qu'il s'occupe des sœurs Simmons. Il accepte, mais il veut pas se salir les mains. Donc, il fait appel à Schlender, le cocombe. Le matin du 27 janvier 1993 arrive. On connaît la suite.
Ouais.
Le soir même, le meurtre de Sean Simmons fait la une aux nouvelles. Charambousse, apparemment, Shelley aurait dit qu'il se moquait de la famille Simmons en disant qu'il méritait ce qui leur arrivait.
Ah.
Il ajoute aussi que maintenant, Katie n'allait pas témoigner contre lui parce que ses parents ne prendraient pas la chance de perdre leur deuxième fille. Hey. Ce qui est quand même vrai, là. Moi non plus, je ne la ferais pas témoigner.
Hey,
donc, Charambousse, il pense s'en être tiré. Il sait évidemment pas que West a engagé le pire tueur à gages de l'histoire pour effectuer le travail à sa place. Il n'y a aucun lien avec Chanel.
Mais c'est souvent ça, les tueurs à gages, parce que c'est souvent du monde désespéré qui sont pas des professionnels. Tu sais, genre, ça arrive vraiment souvent, c'est ça?
C'est vrai. Dans sa troisième déclaration au policier, Schlender, il mentionne Brian West, mais pas le docteur Charambousse parce qu'il connaît pas. Tout ce qu'il sait, c'est que West a été mandaté par un instructeur de karaté. C'est rien d'autre, ça, le docteur. West, il est pas immédiatement arrêté par manque de preuves, encore une fois. Donc, l'enquête continue. On cherche le fameux instructeur de karaté. Les enquêteurs interrogent la famille Simmons, puis c'est là qu'ils apprennent la situation concernant la plainte contre le docteur Charambousse. Et même si le médecin est un assez gros dossier criminel, encore une fois, la police n'a pas assez de preuves pour l'arrêter. Heureusement pour les policiers, il y a une nouvelle plainte qui vient d'être portée contre Charambousse. En 92, il y a une patiente du docteur, âgée de 16 ans, qui a été agressée sexuellement de nombreuses fois par le médecin dans des chambres de motel. Et le père... C'est un peu dégueulasse. Le père de la jeune fille, c'est un grand consommateur de drogue, puis Charambousse aurait accepté de lui fournir des pilules en échange de sa fille de temps en temps.
Oh non!
Ouais. Donc là, les policiers, ils lancent une opération de surveillance. Ils placent un dispositif d'écoute dans la voiture du médecin, puis ils suivent pendant plusieurs semaines. À la fin février 93, donc près d'un mois après le meurtre de Sean, les policiers suivent en voiture Charambousse qui passe prendre Brian West. Donc là, jackpot, le lien entre les deux suspects est établi, mais on doit quand même trouver des preuves. Donc, entre-temps, l'audience disciplinaire du Collège des médecins est annulée. Katie et ses parents sont placés sous protection policière.
Bon,
donc, le plan de Charambousse a fonctionné quand même parce que son plan, c'était de ne pas les faire témoigner.
Ouais.
Donc, ça a fonctionné. Et les enquêteurs sont désespérés. Ils n'arrivent pas à coincer le médecin. Ils capotent. Mais, en mai 93, la police se fait contacter par nul autre que Shelley.
Oh, yes!
Maintenant mère de 3 enfants, elle vient de se séparer du docteur, puis là, est prête à se confier. Shelley dévoile tout. Elle dit avoir été maltraitée par le docteur Charambousse depuis leur toute première rencontre. Avec les années, il est devenu tellement violent physiquement et verbalement qu'elle n'en pouvait plus. Et il l'a menacé des centaines de fois de lui tirer dessus ou de lui injecter une dose mortelle d'insuline. C'était même une menace de médecin.
Oui, vraiment. Comme l'infirmière.
Oui, comme l'infirmière. Il a déjà fracassé la tête avec un marteau, après quoi elle a eu une vision floue pendant une semaine.
Oh my God.
Et ça, c'est tout ce qu'on... C'est juste ça qu'on sait, mais genre, c'est ça qui a...
Il y en a mille autres.
Et ça, c'est vraiment triste. Il y a une fois, tout récemment, Et Shelley, elle a refusé d'avoir une relation sexuelle avec lui. Parce que probablement qu'elle n'avait pas le droit de dire non, jamais. Et le docteur, il l'a battu pendant plusieurs heures devant leurs enfants.
Oh mon Dieu. Quel monstre, sérieux?
À la suite de quoi, Shelley, c'est là qu'elle a décidé de quitter la maison puis de se rendre avec ses enfants dans un centre pour victimes de violences domestiques.
Good job, Shelley.
Elle continue son témoignage en racontant tout ce que son mari lui a dit concernant le meurtre de Sean. Elle leur dit qu'ils sont passés plusieurs fois devant leur maison parce qu'ils voulaient checker, ils voulaient s'assurer quelle voiture était à qui et tout. Elle dit aussi que Charlambous est paranoïaque à l'idée d'être sous écoute puis qu'il fait toujours attention à ce qu'il dit. Pour ça qu'ils sont comme pas capables de le pogner.
Ouais.
Elle ajoute aussi qu'à peu près 2 mois après le meurtre de Sean, elle aurait conduit son mari dans un parc où il aurait rencontré Brian West pour lui donner de l'argent. Donc, après son témoignage, Shelley et ses enfants sont placés, thank God, sur le programme de protection des témoins. Et la police obtient enfin un mandat pour l'arrestation de Charlambous et de West.
Ah.
Les deux. Les deux hommes sont accusés de meurtre premier degré et Charlambous est aussi accusé de complot pour meurtre. Pour le meurtre au second degré de Sean Simmons, Schlender plaide coupable, puis est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Il est aussi condamné à une peine de 15 ans pour la tentative de meurtre de l'homme dans le stationnement souterrain.
Ah oui, oui. Ouais.
La balle dans la langue. Des peines qui peuvent... Comment est-ce qu'on dit? Faire en même temps?
Faire en même temps.
Simultanément?
Concurrente?
Bug de cerveau.
Hey boy.
En tout cas, il peut faire les
simultanément.
Ouais, les deux sentences en même temps. Wow. Avant que les dates des procès de Charlambous et de West ne soient annoncées, Schlender demande à faire une autre déclaration, une 6e déclaration.
Okay.
Il n'arrête pas. Dans ces deux, je fais un petit recap. Dans ces deux premières déclarations, il niait avoir connaissance du meurtre de Sean.
Ouais.
Dans ses 3e, 4e et 5e déclarations, il dit avoir conclu un accord avec West pour menacer Sean, mais pas pour la tuer.
Ouais.
Et là, dans cette 6e déclaration, il admet finalement que le plan avait toujours été de tuer Sean.
Oh!
Il dit avoir menti parce qu'il voulait éviter une condamnation de
meurtre premier.
C'est un peu cocombe parce que tout ce qu'il fait, c'est cocombe.
Ouais.
Parce que là, il se met toute la responsabilité sur le dos.
Ouais.
Ce qui est un peu weird, en tout cas. Le procès devant juge sans jury de Charlambous, 42 ans, commence en octobre 1994. Il est accusé de meurtre premier degré et de complot. Shelley a subi un intense contre-interrogatoire par Maître Peck, donc la défense. Il l'accuse de dramatiser, d'exagérer puis de mentir pour pouvoir toucher l'argent de Charlambous. Mais Shelley est comme... Il n'y en a pas d'argent. Donc, tu veux que je touche quoi? C'est dette de juge. Il n'y en a pas d'argent. Fait que Schlender, lui, il témoigne ensuite. Puis il dit avoir reçu des menaces de West puis jamais avoir rencontré Charlambous. Mais il dit que c'est clairement lui qui a commandé le meurtre de Sean en parlant de Charlambous, même s'il ne l'a jamais rencontré.
OK, ouais.
La défense attend de diminuer la crédibilité du témoin de Schlender en soulignant le fait que il a changé d'histoire à chacune de ses 6 déclarations, ce qui est quand même vrai. Pouf-ti, il comprend rien.
Non, c'est un bon peu con.
Schlender met aussi de l'avant le fait que West a fourni une arme munie d'un silencieux.
Mm.
Un indicateur que le plan, c'était vraiment de connaître un meurtre. T'sais, pourquoi t'aurais pris la veine de mettre un silencieux? Ça, c'est mon opinion personnelle.
Effectivement.
Le juge Ron McKinnon, il dit, en parlant de Schlender, que... Il dit qu'avec toutes les erreurs qu'il a commises lors du meurtre, l'intelligence ne semble pas être son point fort. No shit.
Hey boy.
C'est quand même le juge, est genre, sérieux.
T'es un cocon.
T'es vraiment pas fort. Docteur Charlambous témoigne à son tour. Il nie toute implication dans le meurtre de Sean. Il admet toutefois avoir dit dans un élan de colère devant sa femme vouloir la mort des sœurs Simmons. Mais il dit que c'était juste des paroles en l'air.
Mm-hmm.
Il dit aussi que Shelley, elle a menti dans son témoignage, qu'il n'a jamais rencontré West dans un parc pour lui donner de l'argent. Sa défense est basée sur le fait qu'il a demandé à West de faire peur aux sœurs, mais jamais de commettre un meurtre. Le juge McKinnon déclare que le docteur Charles Ambush est coupable des deux chefs d'accusation.
Yes.
Et le condamne à deux peines de prison à vie concurrentes. Ah, je l'avais écrit
concurrente,
ici.
Concurrente, oui.
Concurrente. Sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
Yay!
Ben West, lui, il est aussi reconnu coupable et est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Faut-tu qu'on dise ça à chaque fois?
Oui.
Je sais pas. Ok.
Obligé.
Après plusieurs années en prison, West, il profite de la clause de la dernière chance puis il demande une libération anticipée. Il a reçu une semi-liberté en 2016 après 23 ans de détention. Pour ce qui est de David Schneider, il est décédé en décembre 2006 d'une maladie.
Oh.
On n'a pas plus de détails. Et Charles Ambush, il a fait, depuis le début de son incarcération, de nombreuses demandes de libération conditionnelle.
C'est sûr que c'est un gosse.
Qui ont toutes été rejetées. Sa dernière demande a eu lieu l'année dernière, à l'âge de 61 ans, 2023. Et à ce jour, Charles Ambush nie toujours avoir eu des relations sexuelles avec ses patientes, même si depuis son arrestation, il y a des dizaines de femmes qui se sont manifestées et qui ont porté plainte contre lui. Pour dire qu'il a été agressé sexuellement quand il était mineur. Et lui, il dit toujours que c'est toutes des folles.
Reste en dedans pour toujours.
Ah oui. J'ai lu à quelque part aussi qu'il disait que c'est encore aujourd'hui un risque élevé de récidive.
Ah oui, dans ce gars-là,
il montre
c'est un
aucun remords. Ouais. Il dit encore que c'est pas vrai. Fait que voilà. C'était l'histoire du docteur Charles. Je suis essoufflée. Je peux pas.
Tu l'as raconté deux fois, presque au
complet. Oui, presque au complet.
Ah, mais good job, c'est une bonne histoire.
C'est un bon fou.
Je pense que je l'avais déjà entendu. Ça me dit vaguement de quoi. Le stratagème bidon dans le sous-sol.
Ouais.
Je pense qu'il y a peut-être un podcast canadien qui l'a fait. Mais...
Ah oui, c'est... excuse, j'ai même pas donné mes sources. C'est mes prefs.
Dark Poutine?
Le deuxième point, Canadian True Crime.
Canadian True Crime, ouais, oui.
C'est ça.
Ouais,
j'ai vu ces journaux, Vancouver's Awesome, le blog Medical Bag et le site web de la Cour suprême du Canada qui donnaient vraiment beaucoup de détails sur. Surtout sur Schlender.
OK.
Comment est cocon. Voilà. L'histoire de Dr. Charles Ambush. Je sais pas comment on veut l'appeler, celle-là.
Ouais, c'est ça, sur le nom. Le docteur.
Le docteur. Mais l'autre épisode que j'ai écrit pour le bonus de je sais plus quel mois, c'est un docteur aussi. Fait que tu peux pas
le docteur 2.
Ben non. Fait que voilà.
Ah, yes, merci.
Merci Pierrot de t'être endormi à la fin complètement.
Ouais. Voilà. Ouais, il est presque dormi tout le long.
Presque.
Il est réveillé un petit peu.
Fait que je vais aller accoucher puis je reviens.
Littéralement.
Littéralement. Merci beaucoup. On se revoit dans deux semaines.
Oui. Bye! À la bine prochaine!
J'allais dire, faut pas que tu oublies l'audience.
On se fait taper ton regard.
À la bine prochaine! Bye!
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tangle apples, too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious-tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.